présent à cette présentation qui s'inscrit dans les rencontres que l'on a de temps en temps donc dans ce lieu avec cet échange autour de l'icône et finalement tout ce qu'on peut mutuellement s'apporter autour de l'icône dans une expérience chrétienne partagée. Donc dans le cadre de la session, c'est vrai qu'il est très riche et quand on fait notre temps iconographique avec l'atelier, tous ceux qui sont là la journée, déjà, je pense qu'ils prennent du temps familial, ils ne peuvent pas en plus ne pas être là le soir. Du coup, nos horaires font que c'est pas évident d'avoir le groupe en réuni pour les présentations. Enfin, en tout cas, ce que l'on évoque ensemble, ce qu'on essaie de partager, c'est cette relation à Dieu, chacun dans l'expérience que l'on vit mutuellement, et que cette pratique de l'iconographie soit aussi un chemin de partage, de rencontre avec le divin, Dieu. Et cette présentation aujourd'hui est reliée à une notion d'ascétisme. Alors, en effet, ça a peut-être fait fuir le mot, l'ascétisme. J'allais dire tant mieux, dans le sens que la notion d'ascète, c'est de faire un effort pour quitter une réalité, pour en rencontrer une autre. Donc, quitter la réalité terrestre pour se retrouver avec la réalité divine. Donc, ça demande un lâcher-prise sur le monde qui n'est pas évident, mais qui est symptomatique de ce que Dieu peut se révéler seulement si on fait l'effort de lâcher la réalité terrestre. Donc, dans la notion d'ascétisme, il y a la relation au fait de ce que l'homme doit se détacher, se délester de tout ce qui est de l'humain pour mettre à disposition de ce qui est divin. Comme le thème, c'est l'ascétisme dans l'icône, ce qu'on va voir dans ces quelques présentations d'images, c'est comment le principe de l'humain dans l'image chrétienne qui est devenue l'icône s'est modifié sur le plan, on va dire, presque génétique, sur le plan de la physiologique du corps, pour laisser la réalité divine l'emporter sur la réalité humaine dans l'image. Dans l'image chrétienne, puisque on sait que la première empreinte de Dieu, c'est d'où vient cette icône. On appelle ça la Sainte Face, qui est la première image historique du Christ, qui est apparue donc selon les écrits apocryphes que la majorité d'entre vous connaissent. Les écrits apocryphes, mais comment ? Plus fort, c'est vrai, plus fort, sinon éventuellement peut-être rapprocher. Donc dans les écrits apocryphes, on a cet épisode où la réalité de l'empreinte du Christ donc, apparaît sur ce voile, puisque le roi d'Édesse, actuellement en Turquie, enfin qui est en Turquie mais qui n'était pas la Turquie à l'époque, en Asie mineure, envoie un de ses serviteurs pour faire son image. Et le serviteur peintre ne peut pas faire son image. Et de ce fait, le Christ imprègne le visage d'eau et apparaît son empreinte sur le voile. Et c'est la première image historique du Christ que on appelle donc non faite de main d'homme, dans la mesure où l'homme n'a pas pu réaliser cette image. Donc les capacités humaines pour rendre présent Dieu ne sont pas suffisantes. On ne peut pas faire Dieu en image, même si il est incarné. Il faut qu'on ait une révélation de Dieu qui décide de se rendre présent. Il doit se rendre présent pour que son image puisse apparaître. Donc ça place la notion créative face à cet enjeu. là où on va placer l'ascétisme. C'est-à-dire que le peintre ou l'artiste ne peut pas faire l'image de Dieu, même Jésus-Christ, en tant que tel, sauf s'il se met en chemin pour rencontrer Dieu, rencontrer le Christ, et qu'à l'intérieur de son travail sur soi, le Christ se révèle en lui. C'est-à-dire que Dieu se révèle à travers celui qui va en faire, à travers ses mains, la présence. Mais ça ne vient pas de l'homme. Ça, c'est une base de la notion même de cette empreinte divine. Comment la rendre présente? C'est impossible. Il n'y a pas de portrait, puisque ce portrait originel n'a pas pu être fait par les hommes. Le peintre en question de l'époque du roi Abgar, donc Dédès, était un peintre, il n'a pas pu faire le portrait, il ne pouvait pas le faire. Donc cette notion d'empreinte, elle est fondamentale dans la relation à ce que la réalité divine va se révéler en nous. Et tout le travail de l'ascétisme, c'est comment se mettre au service de cette présence de Dieu en nous. Quels sont dans nos vies, nos choix, les décisions que nous prenons pour vivre une vie à côté de Dieu, avec Dieu ou habité par Dieu. C'est-à-dire qu'il a la place essentielle de notre vie, et c'est parce qu'il est présent en nous que son empreinte va se faire à l'intérieur de nous, et dans notre un fort intérieur va nous donner la capacité d'en faire la révélation. Donc les images iconographiques sont toujours liées à cette démarche d'un côté d'une forme de chemin personnel pour avancer dans la rencontre de la réalité divine. Sinon, on l'a vu dans l'histoire de l'art, tous les artistes qui ont voulu par leurs propres moyens faire cette expérience de rendre présent Dieu sont toujours à un moment arrêtés dans ce chemin et par des moments d'échec, c'est-à-dire des moments où les choses s'arrêtent et face à des murs, c'est-à-dire que en essayant par leurs propres moyens d'appréhender cette réalité, elle ne se révèle pas à eux et on a des sortes de images qui font référence à, mais qui ne sont pas l'empreinte de cette présence. Donc, dans ce choix qui est là de ce visage, c'est intéressant parce qu'on est dans une époque iconographique qui est justement, et puis c'est le moment d'en parler avec la Russie, le moment de la Russie spirituelle. C'est-à-dire qu'on vit la fin de la transmission de Byzance dans les terres slaves. On va dire Byzance a transmis un message chrétien et les pays slaves et la Russie, la Russie devient un peu la Russie à cette époque. On est au 12e, 13e siècle et finalement il y a une naissance spirituelle qui émerge en Russie avec une recherche vraiment profondément importante de cette réalité divine au sein de la société, au sein de la réalité. Et donc ça va donner naissance à un type d'art qui n'est plus l'art byzantin, qui devient l'art des icônes russes. Et ici, on est dans un schéma assez caractéristique de cette typologie d'icônes qui, contrairement à Byzance, qui était encore attachée à des canons académiques gréco-romains, l'art iconographique russe s'est détaché de la notion proportionnelle, qui est quand même très forte dans la culture gréco-romaine. Et donc, la physiologie du corps a laissé apparaître une empreinte basée sur l'allègement de tout ce qui est carnation. La notion de chair apparaît, le fameux proplasme, dont on parle dans le travail d'icône, c'est-à-dire une forme de matière assez sombre qui révèle la matière d'argile, hein, puisque le proplas c'est l'argile, l'argile c'est Adam, donc c'est la terre d'argile. Et l'iconographie russe va essayer de revenir à cette notion de la première empreinte tirée de l'argile. Donc les visages sont souvent, à ce moment de l'art iconographique, très détachés, même presque de la lumière, assez sombre, comme une forme de révélation qui doit se faire dans la profondeur. Et on a un travail qui va être très rapidement marqué par des accents de lumière très fortes. Donc on passe des ténèbres à la lumière. Il n'y a pas une transition comme dans l'art byzantin précédent, où il y a beaucoup de modelés, il y a beaucoup d'effets de fondus qui sont une certaine forme, qui nous rappellent notre humanité. Là, on a un passage radical, une terre foncée et à des éclairages qu'on appelle les dernières lumières, ces structures très marquées, très schématisées et finalement très stylisées, de la lumière intérieure qui se révèle à travers l'être, où tout est centré sur le regard. En fait, il y a une sorte d'humanité presque d'origine de la terre dans les ténèbres, pour ainsi dire, et au cœur de cette profondeur inaccessible se révèle un visage. Et il faut prendre en considération tout ce qui a amené cette création d'empreinte divine. C'est un détachement du monde, c'est-à-dire que le moins de matière possible, donc se détacher des réalités terrestres, aller vers la notion de terre pure, la pureté de la terre, et dans cette argile, l'empreinte du Créateur. Les yeux sont dans cette époque très fins, vous voyez, en fait l'œil, il y a juste la ligne supérieure de l'œil à l'intérieur très léger, et juste le blanc. En fait c'est une vision très contemporaine, où on a très peu de moyens pour exprimer énormément de densité, de profondeur. Il y a un fond proplasme, quelques éclairages, des traits, et l'image est terminée pratiquement. C'est-à-dire qu'au sens des moyens d'expression, on considère ce type de résultat iconographique comme un aboutissement lié au minimalisme, qui fait référence à quelque chose qui s'allège de la matière, donc qui se ramène à des moyens très pauvres humains pour que la réalité qui s'imprègne soit plus forte que les moyens qui l'expriment. Alors cette icône, elle est en fait presque de cette taille-là, la véritable icône qui a été faite. Et elle se trouve dans le nord de la Russie, et c'est le professeur Lemoine, le père Zénon, qui a été mon professeur en Russie dans les années 90. C'était l'époque où, on parlait du renouveau spirituel en Russie, puisqu'on on revenait à cette époque-là, cet attachement à la période de l'art pur russe, de l'époque du peintre Koublev, et dont la Russie a pratiquement reconstruit son socle de l'Église actuelle sur cette base-là. Enfin, c'est devenu la référence de l'histoire de l'iconographie moderne, même actuellement en Russie. Alors. Donc à cette époque-là, dans les années 90, donc j'étais en Russie, moi je vivais en Russie à ce moment-là, et c'était la chute du mur. C'est la fameuse chute du mur qui a pas duré longtemps, quand on connaît notre histoire. Voilà, on est en train de refaire un mur, mais... Et dans cette région-là du nord de la Russie, ça c'est à Vologda. Donc, c'est vers... Il y a un monastère qui s'appelle Saint-Cyril du Lac Blanc, dans ces régions-là. C'est là où les ascètes sont partis, c'est-à-dire les moines russes qui ont voulu quitter la société russe, vivre dans la pauvreté. Il y a eu tout un courant qui a donné aussi plus tard naissance à d'autres, un autre monachisme avec Saint-Nil-Sorski, que c'est un grand asset. Enfin, la société russe dans les années 90 redécouvre le christianisme dans sa forme d'identité. Donc, en fait, on passe d'un athéisme qui a duré ces fameux 70 ans à un renouveau. Et ce qu'on va découvrir avec ces différentes vues, c'est comment le peuple russe a la capacité de se convertir pour de convertir Dieu à lui. C'est-à-dire quel est le passage entre le fait de redécouvrir son baptême, qui est finalement ce changement d'état dont on a parlé au début, quitter une certaine réalité. Ou est-ce que ce baptême, qui est impressionnant, hein, c'est tout le monde là, c'est vraiment ça impressionne, mais est-ce que le baptême n'est pas au service de la société ? C'est-à-dire, est-ce que ce fameux changement de quitter le monde que demande la rencontre avec Dieu, est-ce qu'à cette époque-là, qui a créé un enthousiasme quand même débordant de témoignages de vie, est-ce que, avec ce qui se passe actuellement, c'est pas cette notion d'être baptisé, c'était pas re-adhérer à une forme d'identité qui est celle de la société. Où se situe le détachement du monde qui est nécessaire à la rencontre de Dieu et à l'empreinte. Et ça, c'est une icône du baptême de la Russie. C'est en donc 1000 ans avant, en 988, enfin, l'icône et contemporaine, mais elle fait référence au moment où le peuple russe est né dans le baptême en tant que nation chrétienne avec le prince Vladimir, donc dans le Dniepr, donc à Kiev. Enfin voilà, on connaît tout le nœud, mais en fait c'est la transformation en icône d'un événement historique, puisqu'on peut imaginer que l'image qu'on a vue avant, s'il y avait eu un reporter à l'époque de Vladimir, on aurait un peu ce type de... Et en fait, la vision iconographique, c'est justement que l'humain ne reste pas l'humain. L'humain retourne à sa terre adamique. C'est-à-dire que la vision iconographique, c'est pas juste recevoir un sacrement et vivre comme on vivait avant. C'est quitter cette réalité terrestre. Donc, que l'icône évoque par cette notion de corps qui n'est plus le même. En revêtant le baptême, on change de corps. On retourne à une forme d'identité comme un être nouveau, comme un nouvel Adam. C'est pour ça que dans les figures iconographiques, les saints et toutes les figures sont représentées par différents moyens, mais là, en l'occurrence, par le proplas, qui ne peut pas être remplacé par une photo. On ne pourrait pas avoir dans l'église une photo du baptême de la Russie. On aurait besoin d'en avoir un changement physique sur le plan pictural pour donner à la condition humaine une autre réalité après le baptême. Et cette nouvelle réalité, c'est pas juste recevoir un sacrement et vivre comme on vivait avant ou rester dans la mondanité, c'est-à-dire dans les règles du monde, mais c'est véritablement se convertir pour devenir la présence de Dieu dans cette nouvelle terre adamique qui est le corps du baptisé. Donc quand on est baptisé, quand on passe par le baptême, en fait on a ce chemin ascétique de quitter une réalité pour être habité par une autre. Et là on a à peu près les deux caractéristiques du baptême, c'est-à-dire la notion de corps, donc ce corps de proplasme, qui est quand même ce que nous sommes, nous, mais habillé de lumière. Donc, et on voit ici dans les icônes, ça emporte, ça enveloppe l'humanité. La lumière enveloppe l'humain parce qu'elle a changé de condition. Et c'est toute la difficulté de nos sociétés, c'est est-ce qu'on vit dans le monde ou hors du monde ? Est-ce qu'on vit dans notre baptême ou à quel moment ça se situe, notre engagement dans la vie ? Qui est au centre de notre existence, même nous, personnellement, on est face à face tous les jours avec ça. Est-ce qu'on est les temples du Saint-Esprit ou on est dans la préoccupation de notre existence terrestre, simplement, quelle est la... Et donc, dans cette région de la Russie, là, on est plus entre les pays baltes et la Russie. Un ami, qui est le père Victor, enfin, qui est plus maintenant de ce monde, mais il était déjà plus dans ce monde tout en étant dans le monde. Enfin, ça n'a pas fait un grand changement quand il a quitté la vie terrestre. C'est la notion justement de la notion d'asset. Comme on l'a vu dans le baptême, l'ascétisme, c'est pas la souffrance, c'est pas la mortification, c'est comment se remplir de lumière. C'est ça la notion chrétienne d'être asset. Comment notre vie va changer pour devenir une manière de remplir sa vie de la lumière de Dieu. Voilà, c'est ça. Et l'icône va toujours tendre vers cette orientation. Va développer visuellement le fait de donner à l'homme cette forme de où on en est dans notre histoire. Quand on contemple une icône, c'est un message de ne pas reprendre l'être charnel, mais une vision spirituelle. Et souvent, d'ailleurs, cet attachement physique se fait dans la pratique, c'est-à-dire des visages comme le père Victor, en fait, qui vivait dans la pauvreté, dans le recueillement et dans la prière. D'ailleurs, c'est un grand pratiquant de la prière du cœur, mais enfin, c'était en Russie dans les années 90, ça n'avait pas encore tellement été repris, mais de la prière permanente. Et donc, physiquement, il avait cette aura de transmettre autour de lui une certaine grâce de paix, d'apaisement, de sérénité, où on sent qu'une personne est habitée par Dieu parce qu'elle est devenue, elle travaille sur elle pour en devenir le temple et moins susceptible d'être fragilisée par tout ce qui nous en éloigne. Et dans cette période de la Russie, c'était parce que ça a été mon vécu à un moment là-bas, donc j'avais des documents de cette période. La notion du temple, l'église, est devenue une structure qui devait contenir la lumière, comme l'est le corps humain. Donc l'architecture russe a pris comme caractère des structures très à très cubiques, enfin surtout au 13e, 14e, et le seul élément qui permettait de sentir que cette œuvre est un lieu de lumière, c'est la coupole, donc le bulbe, enfin qui est comme une lampe qui s'allume et qui éclaire de son chemin donc la présence du divin. Donc la notion de contenir la lumière, elle s'est faite dans l'architecture, elle est née à peu près à cette époque-là, au XIIe siècle, ce type d'architecture, qui devient après typiquement les églises russes. Mais en fait, l'origine de cette forme, c'est comment mettre en valeur le fait d'avoir un temple qui soit allumé de l'intérieur comme une bougie, enfin qui soit, et qui mette la réalité de l'homme en relation avec la réalité de Dieu. Et une construction d'ermitage, en l'occurrence c'est là où vivait le père Victor, qui est basée, enfin il y en a beaucoup en Russie, plutôt justement sur ces deux réalités. On a parlé du proplace, c'est-à-dire une terre, et l'architecture en bois, c'est à peu près ce référence, et la lumière par le doré, les bulbes, etc. Donc, dans ces différentes icônes qui vont suivre, on est face à cet objectif technique de donner à la réalité humaine une forme d'absorption de la lumière. En fait, devant ces deux paramètres, proplace et densité de lumière. Et en fait, dans ce sens, l'exigence de l'art de cette époque nous a orienté jusqu'à maintenant dans l'art des icônes de manière à se projeter dans ce que nous sommes et comment on peut aussi adhérer à cette existence dans notre quotidien on est du proplasme, comment on reçoit la présence de la lumière. Donc ça, ce sont toute une série d'icônes des prophètes, mais on voit d'un point de vue technique qu'on est avec cette base proplasme, on a quelques modelés lumière, mais on a tout de suite un graphisme très fort où même on voit très bien dans la barbe, enfin c'est très particulier comme technique de cette époque, vraiment caractéristique. C'est presque immatériel, si on voit, on fait un gros plan sur la barbe ou même sur les tissus ici, on ne peut pas se douter que ça vient d'une icône ou on se demande qu'est-ce que c'est que ce passe. Donc c'est une réinterprétation de la nature en y imprégnant la densité lumineuse et la densité du corps. En fait, c'est deux choses qui sont souvent opposées, là, qui se rejoignent de manière assez directe. Voilà une image du prophète David. Et à nouveau, c'est cette particularité au sens du visuel de mettre le corps, proplasme, et la lumière directe. Ça va donner naissance à tout un courant très marqué de vie spirituelle, en fait, qui est peut-être l'âge d'or du christianisme russe. Et il n'y a pas eu d'autre éveil spirituel en Russie. C'est vraiment la base. Et ensuite, il y a des courants qui ont tourné autour, des saints qui ont vécu des vies, comme on imagine Saint-Séraphin de Sarov, qui ont. Mais c'est toujours ce rapport, à le fait de rentrer dans la réalité du corps, la réalité de la lumière. Et deux choses qui doivent être assez, on va dire, rapidement en contact. Et ce type pictural, finalement, nous ramène au sens de l'ascétisme, dans la mesure où, d'une vie terrestre, comment faire tout de suite une vie céleste ? Comment mettre tous les moyens possibles pour être habité par cette intériorité, intensité, et finalement cet apaisement. Puisque l'image iconographique, si vous remarquez, eh bien, on le connaît dans le dialogue, met en valeur une diminution des éléments sensoriels. Les bouches sont petites, les nez sont affinés. Donc tout ce qui est du domaine des sens est calmé. Alors que nous, si on n'a pas quitté cette état dans notre vie spirituelle, si on est toujours sous le joug des passions, on est animé par nos sens et nos émotions. Ici, les émotions humaines sont canalisées, donc c'est épuré, donc c'est voulu, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui plaît ou qui plaît pas, c'est pour changer les données anatomiques du corps et au contraire rentrer dans l'intériorisation par le regard. C'est à nouveau tout ce qui est lié à la présence de la contemplation, finalement, de l'âme. Et c'est pour ça que la notion esthétique est très relative dans les icônes. Parce qu'on n'est pas là pour admirer une icône. On est plus pour nous remettre face à face à un dépouillement. Et donc on ne peut pas dire j'aime ou j'aime pas les icônes. C'est comme si on dit j'aime ou j'aime pas l'évangile. C'est pas une question de goût, c'est une question de message transmis par les formes d'une direction spirituelle. Après, on peut y être sensible plus ou moins, mais c'est pas basé sur la notion de goût. Tout l'effort de cette image est fait pour nous remettre en question, parfois nous perturber même. Donc, on a encore des visages de ce type qui sont les caractéristiques, et c'est par rapport au thème de la conférence, cette notion d'ascétisme dans l'icône, en fait, on est dans la période où c'est arrivé. C'est-à-dire qu'on a la majorité des moyens pour arriver à ce résultat technique, plastique, iconographique, pictural. Et après, on est redescendu. C'est comme si on avait atteint un pic de plastique. Et là, on a les caractères. Et donc, comme par hasard, quand la Russie a redécouvert sa foi, enfin, en 1988, le courant iconographique a été basé sur cette période-là. En fait, et depuis, ça reste toujours la référence, même, j'allais dire, de l'État. C'est assez caractéristique du fait que c'est la référence historique de la Russie. Ce sont des fresques contemporaine des années 90, enfin, dans un monastère où moi j'étais formé. En fait, on rejoint, il y a Saint Jean Climac, Saint Jean Chrysostome, deux figures de l'Église, mais c'est surtout, en fait, ce qui est intéressant par rapport à cette technique ascétique, c'est que la couleur du fond est la même que la couleur de la chair, c'est-à-dire que le corps disparaît dans la lumière incréée, c'est-à-dire dans le fond, et on peint tout sur le même fond, qui fait que le corps est une réalité divine, elle n'est plus humaine. Et c'est un peu le sens de cette vision ascétique, c'est comment le corps devient une source de lumière, et comment la matière corporelle n'est plus de l'ordre de la réalité physique, physiologique. Et du coup, les images iconographiques vont toujours nous amener vers cette dimension spirituelle. Si on regarde une icône, c'est est-ce que nous, on a ça dans notre vie quotidienne? Est-ce qu'on épanouit notre vie spirituelle ou pas? Et à chaque fois, c'est une sorte de rappel, le fait de voir une icône, est-ce qu'on est dans cette direction, dans notre vie chrétienne? Où est-ce qu'on s'éloigne de cette réalité? C'est toujours les caractères de type ascétique, c'est est-ce qu'on est assez rempli de la lumière divine ou est-ce qu'on est éteint de cette lumière? Comment est-ce qu'on se situe? Et chaque fois qu'on a cette image, elle nous met en interrogation vis-à-vis de notre... Saint Jean Climac, il a écrit l'échelle sainte, donc pour le coup, en termes d'ascétisme, enfin, on est dans le... une recette, vous avez la recette pour devenir des ascètes en suivant, mais pas seulement en lisant, c'est ça le problème de notre, c'est qu'on lit des livres sur les pères de l'Église, on lit en ligne, mais qu'est-ce qu'on met en pratique de ce qu'on a lu, c'est plus difficile à faire. Donc Saint Jean Climac, à la limite, vaut mieux pas le lire, vaut mieux en lire une petite partie et essayer de la mettre en pratique. Et quand on voit. Faut replacer ça dans son contexte d'une société qui vit en Dieu. Donc, nous, on est comme dans des petits morceaux de puzzle, une société qui est complètement à la période des ascètes du désert, des moines du désert de Cété, tous ces grands déserts qui ont porté la foi chrétienne dans l'Orient et qui ont donné... souvent par leur puissance spirituelle des guides dans le monde. Donc là aussi la notion d'ascète et dans l'icône, c'est souvent été comparé à un phare à nouveau de lumière comme une orientation. Alors, à nouveau, c'est Saint Ignace d'Antioche qui est représenté.
Comment ? On l'a fêté hier.
Ah oui, exact. Voilà. Et ça, c'est un art actuel en Russie qui est pratiquement, on va dire, le plus pratiqué sur ce type d'écriture des visages. Encore une fois, on retrouve ces caractéristiques très poussées, simplicité de la base proplace, qui rappelle le fond, lumière et ligne de structure, et pratiquement c'est tout.
Et comment il fait le blanc sans que ça écrase alors?
Des éclairages?
Oui.
En dessous, tu as un léger petite montée de lumière, très légère. Mais en fait, dans la carnation proplace, il y a l'ocre rouge, il y a l'ocre jaune, il y a tout réuni en fait. C'est pour ça qu'on a tout en une base. C'est ça que ça fait pas. Ça, c'est vivant, mais c'est très peu présent. Et puis c'est de la fresque. Donc le mur transparaît. Enfin... Enfin, ça, un petit clin d'œil sur des artistes contemporains, très contemporains. C'était une, un iconographe ukrainien qui a fait ça sur une caisse de, d'obus du Donbass. Donc c'était encore en 2014 là, c'est-à-dire que depuis il y en est passé des caisses, mais pour nous on prenait pas la mesure de ce qui se passait à cette époque-là dans cette région. Mais là-bas il savait, donc c'était, il a utilisé une caisse d'obus pour faire une iconographie sur ses planches brutes directement, avec le charbon du Donbass qui est dans la croix du Christ, puisque c'est la région forte. Minière de la région. Enfin. Et c'était un message de cette empreinte dans ce corps souffrant, de la présence de Dieu, où en est cette présence, dans cette réalité de cette sainte Russie, puisque c'est le bastion, toute cette région des débuts du christianisme russe, hein, slave, en passant du Dniepr, en remontant par le Donbass, enfin c'est tout. Et donc il y avait exposé, c'était une exposition au Bernardin. Et quelques artistes ukrainiens. Voilà, la réalité éphémère du monde et l'empreinte immatérielle du Christ. Voilà, c'est par rapport à notre conditions humaines et l'empreinte de celui vers qui, au-delà de tout, on avance. Alors, dans la même gamme d'iconographie, on voit cette présence assez imposante, c'est assez, pas que c'est pas rare, mais c'est pas fréquent, d'avoir une quantité aussi importante d'icônes de type aussi sombre, enfin aussi proplasme sur tout le travail qui amène à l'autel. Donc on a une iconostase et elle est assez originale par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, parce que souvent elles sont assez dorées, hein. Et là c'est l'aspect proplasme, bon, l'aspect proplasme, l'aspect terre, ouais.
Merci.
L'aspect de matière terrestre qui l'emporte, c'est de mettre en avant la condition de ce monde dans lequel on est nous-mêmes et duquel on est issu, et le corps qui s'éclaire légèrement par les petites lumière des auréoles. Donc il y a à la fois très peu de dorure, mais elle est ciblée sur le fait qu'elle sort de la matière des corps, et on a l'impression que c'est tout un ensemble uni de terre, cette présence. Alors évidemment on connaît bien la fonction, hein, c'est pour le coup on est dans des périodes de l'art où l'iconostase est immense et il n'y a plus un centimètre pour voir l'autel, c'est-à-dire que c'est complètement envahi de cette réalité qui sacralise la dimension mystique de la partie sacramentelle de l'eucharistique, c'est-à-dire que l'humain ne peut pas appréhender cette réalité divine. Donc ce qui est le passage entre l'humain et le divin devient presque une paroi inaccessible, et c'est vécu par cette notion de se sentir misérable par rapport à l'immensité de la puissance divine qui est derrière l'iconostase. Enfin, donc ça a été très fortement développé dans la sensibilité russe. Là c'est une iconostase qui doit dater du 16e siècle, mais en tout cas il y a un petit clin d'œil. Donc ça c'est Ludmila, c'est ma mère qui était à l'époque ce voyage. Et donc on se perd en fait dans le corps humain se perd dans le corps céleste, c'est-à-dire même il y a une sorte, on devient des icônes vivantes en fait. un peu le rôle de toute cette présence. Il n'y a plus d'humain dans la liturgie. Il y a un passage où il y a un moment où on essaie par tous les moyens plastiques, liturgiques, rituels, de faire en sorte que le corps disparaît au-delà du monde terrestre. Donc, on le voit progressivement quand on assiste à de longs offices. On perd un peu la notion et du temps et de la réalité. Et d'ailleurs, les habits liturgiques sont faits pour oublier qu'on est dans un corps. Et finalement, la longueur et la position debout, on sait, hein, le fait d'être dans la vie liturgique dans des positions debout, on est au bout de ses capacités physiques. Donc, il y a un moment, le corps laisse la place à une autre réalité. Mais si on a tout centré sur notre corps, on ne peut pas vivre ce détachement. Et c'est ça, l'ascétisme, c'est comme un éveil à sentir ses limites. Si on ne les sent pas, on ne va pas développer en nous la dimension spirituelle. Donc c'est une sorte de pour stimuler les sens de prière. Et on connaît, alors après c'est aussi en fonction des, on va dire, des différents peuples, hein, le peuple russe a une capacité, a presque un besoin, j'allais presque dire, de souffrir, c'est-à-dire de vraiment dépasser ses limites. C'est un peu dans le tempérament aussi, on peut être plus tranquille, apaisé selon certaines régions, mais il y a cette notion quand même d'aller au-delà de soi et ce rapport au divin qui est immense, inaccessible, inaltérable, et que l'on veut appréhender, mais qu'on n'est pas en mesure d'appréhender. Enfin, voilà, ça. Mais le principe de l'iconostase, ça a vraiment été très marqué par cette puissance de ce feu divin auquel on va se nourrir, mais vraiment pas dans notre capacité humaine. Et donc là, c'est une vue de notre église dans le Vercors. Donc, comment on a réussi à trouver une alternative à la culture, c'est-à-dire d'avoir la même direction liturgique. Parce qu'on a vu historiquement que le christianisme a toujours eu cette tension dans son tronc de l'église indivise. Et quand on est, nous, occidentaux, pas en Russie, on n'est pas là pour vivre des émigrés russes. Enfin, on sait que dans des églises où il y a beaucoup de Russes, on va refaire le même schéma qu'on a en Russie, parce que c'est un attachement d'un autre pays, c'est un attachement qui est lié à une culture aussi. Mais quand on est occidentaux et qu'on a cette équivalence qui s'est développée sur la terre occidentale, c'est la notion de transcendance. Donc il y a eu, hein, c'est les chevets, enfin, tout ce qui a été mis en lien avec l'autel, comment l'humanité appréhende la réalité sacrée divine, tout en se modifiant dans sa génétique, pas y aller avec l'humain, mais laisser la réalité humaine au service de la réalité spirituelle pour aller s'alimenter à la vie sacramentelle. Et donc, bon, là, c'est pourquoi on a, nous, travaillé ça d'après un esprit plutôt roman. Et ce Christ, donc, qui est rempli de gloire, le Christ qui est là typiquement, j'allais dire, français, on ne peut pas dire que c'est, je ne sais pas, de quelle culture, hein, c'est vraiment notre art français d'icône. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est d'une autre culture, ça aussi qu'il faut comprendre dans l'histoire chrétienne. Qu'on adhère aussi à des paramètres qui sont façonnés dans notre terre locale. Et ce qui est intéressant, vraiment, et on est revenu à une lecture ascétique de l'art à l'époque romane, et vers quoi on allait ? On allait vers une façon de faire en sorte que le corps soit vraiment, pour le coup, comme le dit l'apôtre, le temple de l'esprit. Le corps et l'ascétisme, c'est ça, c'est comment changer l'existence, pas se nourrir que d'aliments terrestres, mais développer en nous la vie céleste. Comment notre vie va devenir une vie plénitude de l'action de l'Esprit Saint. Et du coup, le Christ, qui est la révélation de Dieu trinitaire, le Christ révèle en lui la présence du Père dans l'esprit, dans cette relation. Dans les figurations au centre, on a vraiment finalement, à la limite, la partie la plus importante, c'est pas son visage, c'est son manteau. C'est-à-dire que c'est son manteau d'esprit rempli de souffle et de lumière. Donc l'image est avant tout celle d'un corps céleste. Après, il y a un visage, il y a un regard, mais il y a une sorte de changement, et ça c'est typiquement à l'art français roman, c'est d'avoir donné au corps plus d'importance que le visage qu'on avait en Orient. Où autant on a ce besoin de face à face avec le regard, autant dans l'Occident chrétien, il y avait cette notion de corps céleste. Et on sait qu'on a des exemples très impressionnants, où il n'y a pas d'équivalence au monde, de faire apparaître autant de souffle dans la matière, dans des tympans comme à Vézelay ou Autun, enfin, ce sont quand même des œuvres extraordinaires, occidentales, de images ascétiques. C'est-à-dire que le corps est le réceptacle du souffle de l'esprit et dans la taille de pierre. Donc on a atteint un niveau qui dépasse en fait les possibilités, puisque dans la peinture c'est encore possible de immatérialiser, mais dans la pierre, d'immatérialiser la matière. C'est donc en fait on est assez c'est assez intéressant de voir que c'est pas une question d'occidental ou d'oriental, c'est une question d'expérience de vie, de foi commune dans une façon ou dans une autre, de mettre en avant une dimension ou une autre dimension. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue culturel, on retourne quand même dans un quotidien qui est celui du chrétien, tout simplement. Comment éveiller notre... Et l'icône est un moyen de nous mettre face à face avec cette dimension céleste. Bon, on a le mouvement des anges, la déesse, et puis cette fameuse iconostase, mais qui du coup ne nous empêche pas visuellement d'accéder au sanctuaire, qui est quand même pas forcément dans notre culture occidentale. Et du coup, on n'est pas en train de dire qu'il faut devenir russe pour devenir avec ce rapport à l'icône. L'icône laisse présente une réalité plus incarnée dans laquelle on peut dire qu'en termes de sensibilité occidentale, on est... on ressent les choses un petit peu plus dans notre vécu, dans cette réalité. Voilà. Et voilà, en fait, c'est la rencontre des deux. C'est la dernière image que j'ai de ce petit parcours sur le rapport entre finalement ce que la Russie a pu avoir porté de plus spirituel dans son parcours chrétien. Elle a créé une image ascétique, comme on l'a vu, qui était assez originale. Et nous, notre Occident, et nous, notre parcours personnel, enfin en tout cas, on a fait cette petite chapelle là dans la Drôme, et on avait la chance donc d'être avec, d'ailleurs, pour ça que je la présente ici, puisque c'était aussi pour les 100 ans de la consécration de la cathédrale de Monaco, où il y a eu ce projet de faire venir la chorale de Kiev pour chanter dans la cathédrale. Et quand on s'est dit, maintenant ils sont là, on ne va pas les laisser repartir, parce que c'était quand même un budget important de faire venir 40 séminaristes de Kiev pour les 100 ans de la cathédrale de Monaco. C'est ça rentrait, disons, dans les possibilités de ce projet. Et pendant à peu près 15 jours, on s'est dit on va faire des concerts chants liturgiques dans différents lieux de pèlerinage en France pour faire participer ces séminaristes à la rencontre avec l'Occident chrétien. D'ailleurs, ils ont fait un éloge de l'Eras, on est passé dans ces lieux. Et l'objectif, c'était ne pas faire de rupture Russie, Occident, enfin l'inverse de ce qui se passe, de ne pas reconstruire un mur, mais d'essayer de faire partager la richesse des uns d'un point de vue spirituel. Et tous sont des futurs prêtres, donc c'était pareil, il y avait 40 futurs prêtres qui ont vécu une rencontre avec l'Occident très un éveil. Enfin, c'était vraiment une richesse forte. Et bon, eux, après, vont enseigner la foi dans leur pays, enfin, dans tout ça. Ce sont des toutes petites brèches qui ne sont pas très fortes dans, à notre échelle. Mais enfin, en tout cas, c'était un grand moment. Et nous, enfin, on retrouve ce principe de la verticalité, l'eau, la terre, et puis l'éveil vers la réalité céleste. Enfin, que l'architecture, que la peinture, que le langage iconographique donne à appréhender, et comment nous éveiller à cette dimension dans notre vie quotidienne. C'est peut-être un des points sur lesquels les chrétiens du futur vont avoir, en Occident surtout, comment être éveillés spirituellement, comment être épanouis, comment être remplis de lumière, comment vivre, de s'alimenter de Dieu, et puis le retranscrire autour de nous. Enfin, tout ça, ça fait partie de ce choix, de cet effort d'être habité par sa présence. Voilà. Merci pour votre écoute.
Merci,
mon père.
Un petit voyage en même temps.
C'est bien.